Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Les adultes sont globalement fatigués. On le voit quand on est petit, on le vit quand on le devient. Clairement, on est tous fatigués.
Tu trivialises ma poésie, Mathis.
Moi, dès qu'il y a du silicone, j'ai envie de le mâcher.
Ah ouais.
C'est normal. C'est laisse-moi kiffer. Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau.
Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc, Mathis ?
J'ai plus envie.
Yo, Guillo, Guillo, Guillo.
That is...
Et moi, même si je ne sais pas lire ce qu'il y a sur le paquet, je vois bien qu'il y a un rat barré sur le.
Votre cul est agréable ici. Merde.
Je peux quand même dire que depuis que ce chat a été béni. Il n'a jamais été aussi insupportable.
Tu voudrais dire que Kalindi est un peu drama queen et qu'elle en fait beaucoup ?
Moi, absolument pas. Moi.
Attendez, trop de tiroirs ouverts à la fois.
Salut.
Hello.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'épisode 201 de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression où quatre chroniqueurs, chroniqueuses de Mademoiselle partagent leur bonne humeur autour d'une table. Pas aujourd'hui, parce que la fatigue. Je suis Mathis Grosso, et puis déjà on n'est pas quatre, responsable des podcasts chez Mademoiselle, et je suis en compagnie d'au moins deux personnes. On dirait l'anniversaire de Manuel Valls, là comme ça. Et en plus Ruby est pas là, donc c'est un peu le seum. Mais LM Crado, LM Crada, on m'a accusé de faire de la censure, de limiter les kiffs, d'imposer mes questions débiles en intro. Tout ceci est vrai, mais j'ai changé parce que pour cet épisode 201, je vous propose un format différent, mind-blowing, trailblazing, scuba diving. Anthony Vincent pourra donc exposer ses 14 kiffs à la suite comme il le souhaite et comme il lui plaît. Je reçois aujourd'hui Marie et Anthony pour un épisode tout spécial abandon finalement, puisque Aïda n'a pas pu venir à l'épisode puisqu'elle est submergée par le travail. Manon est submergée par une pharyngite et
nous on est des tirs au flanc disponibles en tout temps, en tout cas. C'est ça que tu veux dire, Mathis ?
Et Mimi est submergée par un voyage en Sicile, ce qui est très triste. Mais voilà, ça m'empêche pas d'être très content de vous recevoir aujourd'hui pour cet épisode 201 avec une question toute spéciale que Anthony ne m'a pas du tout soufflé il y a 10 minutes dans l'oreille. Une question finalement de niche. Quel type de mozzarella êtes-vous ? Mais le monde veut savoir. Marie, quel type de mozzarella es-tu ?
Alors moi je serais plutôt les petites billes, tu sais les mini mozzarella que tu peux avoir en petit lot.
Comme la chanson des Beatles.
Exactement,
les petites
billes. Ouais, parce que ouais, je suis une petite personne quoi, et puis ouais, une petite bille.
Plein d'énergie.
Et puis je suis la seule qui met aussi des petites billes comme ça de mozza dans son poké. Et c'est un choix très controversé.
C'est vrai.
Ouais.
Qui est contre ?
Aïda notamment, hein. Bon, dommage elle est pas là pour
les
expliquer
absents,
pourquoi.
Toujours tort.
Mais ouais.
Ok, mais petite bille pour toi.
Aïda, elle est assez conservatrice niveau nourriture en vrai. Hein, parce que c'est grave une purée du Pokéball. Elle a déjà le Pokéball en Occident, c'est de l'appropriation culturelle.
Exactement.
C'est grave de droite et tout.
Nous sommes à 2 minutes de podcast. Aïda est la personne de droite de la bouffe. C'est dit. Voilà, boum.
J'ai dit conservatrice. Ouais. J'ai un amant qui disait que le conservatisme de gauche existait. Mais je vous laisse philosopher là-dessus.
C'était Fabien, c'était Fabien Roussel.
Non, mon Dieu. Peur qui ça dénonce. Non, pas du tout. Je pensais pas du tout à ça, non, Mathis. J'ai une vision d'horreur maintenant en tête.
Désolé.
Et c'est pas pour étaler ma science, mais les Italiens et les Italiennes disent bocconcini pour la mini mozzarella, les mini billes de mozzarella. Voilà.
C'était pour étaler.
Du coup, je suis une petite bocconcini.
C'est ça. Mais je me demande si c'est pas un pléonasme de dire bocconcini, parce que cini, je me demande si c'est pas déjà petit, tu vois, genre comme piccolini. Enfin bref, qu'importe.
Ayant fait 14 ans d'italien, je te réponds que. Principalement.
Merci pour ton expertise.
Je vous en prie, anytime. Ok, Anthony, du coup, quel type de mozzarella es-tu, puisque c'est toi qui as posé la question, donc c'est que tu as une réponse parfaite en tête que tu m'as déjà dite, donc je vais faire semblant d'être surpris.
Ce que j'ai dit.
Eh ben, écoute, je serai surpris une deuxième fois. Alors.
Je sais vraiment plus ce que j'ai dit, mais en fait, la réponse c'est que je ne suis pas une mozzarella, je suis une burrata.
Oh mon Dieu.
Plot twist.
Incroyable. Tu poses des questions que tu respectes même pas.
Non, mais parce qu'en fait, je pars du principe que tout le monde confond mozzarella et burrata.
Oui.
Alors que c'est deux choses différentes.
Alors explique-moi.
La burrata n'est pas vraiment une mozzarella. La burrata, c'est de la mozzarella à l'extérieur qui forme une enveloppe ferme, comme moi, mais fondante à l'intérieur, remplie de stracciatella, qui est pas vraiment de la mozzarella en fait. C'est quand même fait avec du lait de bouflone Pufflone. Pardon, excusez-moi. mais c'est différent de la mozzarella parce que le processus c'est pas le même. Du coup, c'est plus blanc. La couleur du fromage est relativement plus blanche. Mm-hmm. C'est vraiment la crème de la crème, comme moi.
Ouais, c'est
et
crème.
Donc voilà, c'est ferme à l'extérieur, vraiment dur, tu vois. Et enfin, pas dur, mais un peu quand même.
Ok.
Et vraiment tendre, dégoulinant, cœur d'artichaut à l'intérieur, tu
une
vois.
Une personne texturée.
Voilà, finalement. Une personne texturée.
avec du relief.
Avec du contraste. Du contraste, c'est important, wow. Le contraste. J'hésitais avec la fumicata, la mozzarella fumée. Ou alors pire, la scamorza. Scamorza, pardon, excusez-moi. Je sais pas si vous voyez, vous avez peut-être déjà vu ça en Italie ou dans les restos italiens. Genre, il y a des trucs qui ressemblent à de la mozzarella, mais sous de la cire. Vous avez déjà vu ou pas?
Non.
Non, jamais. C'est une enveloppe hyper dure, jaune, voire orangée.
C'est du gouda,
en fait,
ça.
C'est... Non, c'est pas du gouda, c'est de la mozzarella fumée
la
souvent.
La mimolette.
Et okay. Du coup, ça a vraiment le goût, comme si de la mozzarella avait traîné sur un barbecue. Et ça a le goût de la fumée. Vous connaissez le paprika fumé ou alors
c'est
la barbecue ou quoi?
Oui.
Ça me contrarie.
Bah, il y a un arôme fumé hyper particulier. Et ben, la scamorza ou la fumicata, c'est ça. La fumicata, c'est plus petit. Et la scamorza, en fait, ça veut dire décapité en italien. Et en fait, c'est souvent des boules de mozzarella qui ont été suspendues. Et du coup, ça a une forme de poire qu'on coupe pour la servir et tout. Enfin bref, qu'importe. Et donc ça, c'est vraiment très dur, même à l'intérieur. Et du coup, c'est très pratique en sandwich. Je faisais souvent ça quand j'étais en Sardaigne en vacances l'année dernière. Voilà, j'ai trop parlé.
J'ai aucune idée de la mozzarella que je suis. Vraiment, je vous observe. C'est vraiment... J'ai la panique dans les yeux. Je ne sais pas. J'adore le fromage. Je suis une mozzarella pas chère. J'achète une mozzarella pas chère. Et je la suis parce que finalement, ça a pas un goût incroyable. Mais en même temps, bon, ça fait le taf. Quand tu fais ça dans une petite recette, ça ajoute un peu de mâche. C'est pas zinzin, mais t'es content. Donc finalement, t'en as pour ton argent. Donc on va encore dire que je me dévalorise via Le Monde veut savoir parce que je dis que je suis une mozzarella pas chère. Mais tout ce qui n'est pas cher n'est pas forcément pas bien. Arrêtez d'être de droite.
Bah, voilà. En vrai, la mozzarella, pour bien la choisir... Non, je rigole. non, ce que j'allais dire, c'est que t'es de la stratégie là. Ce que j'allais dire, c'est que tu es de la stratégie... C'est dur, difficile à dire.
Stratiatella.
Moi, j'ai pas fait l'italien en troisième langue.
Moi non plus.
De la stratiatella, Mathis. Tu es de la stratiatella. Parce que t'es que la crème de la crème. Et du coup, t'es dur à contenir. Mais c'est délicieux.
Je suis dur à contenir.
Ouais, non, mais du coup, ça peut se répandre.
Ouais.
Mais c'est vraiment la crème de la crème. Oh. Tu vois, il n'y a pas d'enveloppe, c'est vulnérable, c'est sensible, c'est...
C'est incroyable, j'accepte ce compliment. C'est délicieux. C'est totalement moi.
Et voilà. C'est... voilà.
Formidable.
Dégoulinant.
Eh ben écoute, merci beaucoup. Le monde voulait savoir tout ça. Je pense que le monde va un petit peu mieux maintenant que nous avons exposé quel type de mozzarella nous sommes finalement.
Si vous ne savez pas la choisir, cherchez mozzarella AOP, la mozzarella di Bufflone. Voire mieux, de la mozzarella di Bufala Campana.
C'est incroyable.
Qui est une appellation d'origine protégée. Ouais. Et du coup, made in Italy, c'est hyper important. Vous cherchez l'appellation d'origine protégée. Là, c'est vraiment délicieux. Vous avez affaire à de la vraie mozza.
Et en même temps, c'est vraiment très très bon. En effet, je confirme. Est-ce que vous avez des commentaires, les petits amis?
Yes.
Vous êtes en train de chercher... Ah, vous saviez que ça arriverait. Vous le saviez. Marie, est-ce que tu as un commentaire depuis ton dernier passage qui était il y a quoi? 4-5 épisodes? Quelque chose comme ça, sachant qu'on a eu 30 000 épisodes de sang depuis.
Ouais.
On était vraiment, allez, encore un joyeux anniversaire, ça devenait un peu lourd. Mais nous sommes au 201, nous sommes passés à autre chose. Regardez-nous, nous avons grandi. Voilà.
Alors déjà, je suis très contente parce qu'il y a, plusieurs LM Crado qui m'ont envoyé des photos de leurs chats qui sont comme le mien, des petits chats pervers qui viennent renifler pendant l'acte sexuel. Et même, j'ai eu plein d'anecdotes drôles de chats qui viennent même pendant l'acte sexuel. Du coup, je suis rassurée. Continuez à m'écrire. Hein, si y en a d'autres parmi vous à qui ça arrive, continuez à m'écrire parce que je pense que vraiment, il y a une enquête à faire sur le sujet. Hein. Et puis, voilà. Là, j'aimerais vraiment savoir, même interroger un expert, savoir pourquoi mon chat fait ça. Est-ce que le veto m'a arnaqué sur la castration, hein? Peut-être, sûrement. Du coup, je sais pas, il y a un truc à tirer au clair. Du coup, continuez à m'écrire, envoyez des photos de vos chats, ils sont trop beaux. Et puis, on est dans le même bateau. Après, j'avais reçu plein de messages super mignons. Notamment d'une jeune femme qui était elle aussi étudiante en journalisme et du coup elle aussi en stage, du coup on a pu un peu partager toutes les deux de notre propre expérience et c'était vraiment super cool. Et il y a un message qui m'avait beaucoup touchée, c'est celui de Maya Yel qui me dit « Coucou, petit message d'une M. Krados, LM Krados, pardon. Je voulais te dire que quand j'ai su que c'est Mathis ou Anthony qui a parlé de toi en mode « la meuf que je forme, oh là là », et ben là, oh my god, c'était trop cute. Je me suis dit qu'il fallait que je leur dise de t'inviter dans LMK. Après, j'ai oublié de leur envoyer un message et une semaine après, tu étais dans mon casque. Ça m'a fait trop plaisir, j'ai eu l'impression d'avoir écrit un peu l'histoire avec vous. Non, je rigole, mais voilà. Et profite de ton stage, enfin... C'était adorable, quoi.
C'est Anthony, il faut savoir que je forme personne. je suis alternant, il manquerait plus que je forme quelqu'un à me former, moi qui suis moi-même en formation. Ça fait
trop de
forme.
Te dévalorise pas.
Ah non, mais c'est un fait, en
fait. Tu m'as aidé pour les podcasts. Hein.
Oui.
Si non,
mais,
tu m'as
alors, non, alors, je peux apprendre des choses, mais je ne forme pas. C'est pas mon métier, c'est pas... Enfin, je suis en formation, en fait. Techniquement, je suis étudiant encore. Donc voilà, c'est de ça que je voulais parler. Ok, Anthony, est-ce que tu as un commentaire, toi?
Oui, j'en ai plusieurs, mais je vais être bref. Désolé, Mathis.
Non, vas-y, fonce. Alors, on a plus
Marion,
de temps.
Qui est une personne non binaire transmasculine qui m'a envoyé son histoire avec les poils. C'était hyper intéressant. Continue de me raconter votre rapport aux poils parce que je trouve que ça raconte beaucoup de nous, des dictats de la société et de ce vers quoi on pourrait aller. Il y a Maëva qui m'a raconté son histoire avec les framboises dans le jus d'orange, les framboises surgelées dans le jus d'orange, parce qu'en fait, Maëva, oui, étant une belle personne, elle aussi, elle utilise des fruits pour ajouter du goût dans les eaux, les jus, etc. Elle utilise des fruits surgelés comme des glaçons, et ça, c'est le meilleur tips de l'humanité. Et enfin, il y a... Enfin non, c'est pas du tout enfin, je raconte n'importe quoi. Il y a aussi Lana qui m'a raconté à quel point elle aussi, elle avait passé un EVGF de l'enfer. Donc merci, on n'est pas seuls, on est ensemble dans cette galère. Et je vote pour qu'on invente ça, juste une grosse bifoire de mariage ou ouais, juste une pré-soirée de mariage. Voilà,
ouais,
c'est
grave.
Arrêtez de vouloir enterrer le célibat c'est très bien.
De ouf.
Oui, je suis célibataire. Est-ce que ça s'entend? Et enfin, il y a Colin, c'est surtout ça, un commentaire sur lequel je voulais revenir. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans un épisode précédent de LMK, qui n'est pas encore sorti, je crois, à l'heure où on tourne cet épisode, mais qu'importe. Il y a une personne qui nous avait envoyé un message boubou, un message réré, un message bourré, où elle racontait qu'elle voulait que je l'adopte.
Oui, c'est celle qui disait que son kiff c'était une pétasse.
Oui.
Je me souviens de ça, bien sûr, Colin.
Et du coup, elle m'écrit, je cite, « Bonsoir, alors est-ce que suite à un message bourré, je participe au titre du dernier LNK, plus grand flex de ma vie, je pense le mettre sur mon CV ?» Plus sérieusement, je pense t'envoyer des papiers d'adoption puisque tu as accepté de m'adopter. Et je voulais te remercier pour tes kiffs, mais surtout le rêve incroyable que tu dégages. Bon, ça c'est... J'arrête les mots doux. Elle dit aussi, elle rêve de faire une randonnée avec moi où je lui parlerai de mode et je lui ferai une routine skincare. Et voilà. Et enfin, elle me dit que elle adore LMK. Donc voilà, merci beaucoup du soutien, Colin. Ton message est adorable. Et il faut qu'on s'envoie des papiers d'adoption mutuelle. Je ne sais pas si la France accepte ce genre de cross-adoption pour l'instant. Mais le monde veut savoir. Voilà, merci. Merci beaucoup.
Trop
et toi,
bien.
Mathis, est-ce que tu as des commentaires?
Alors moi, j'ai des commentaires, mais j'ai choisi d'en prendre un sur le compte de Laisse-moi kiffer, parce qu'il faut continuer de lui écrire et de l'alimenter, évidemment. Quelqu'un qui dit, donc quelqu'un, c'est Shana, qui nous dit « Hey, un gros merci pour tout vous, quoi ». J'ai découvert LMK depuis peu, je vivais un peu sur une autre planète, et depuis j'ai repris depuis le tout début. Cette personne aime bien insister sur des voyelles, peut-être que c'est Aïda, on ne saura jamais. Et là, idée de folie, je note tous vos kiffs que je me réjouis de faire aussi, et je les balance dans une grande jarre. Non seulement j'ai l'impression de faire un investissement de ouf de ma vie en écoutant votre podcast sur le canapé, mais en plus je suis rechargé de kiffs à vie. Donc merci, merci, merci. Et je trouve que c'est une très bonne idée de faire ça au fur et à mesure, parce que si tu tapes ce chantier en mode « Ah, dis donc, j'en suis à l'épisode 169, j'aime vraiment beaucoup podcast, si je reprenais tout depuis le début pour tout noter, ce serait pénible. Sachez que, en tout cas, moi, depuis que je suis là, je peux pas trop garantir pour le reste, mais donc depuis l'épisode 159, si je dis pas de bêtises, on a coutume de noter sur le site mademoiselle.com les kiffs, donc voilà, vous donnez pas cette peine, n'empêche que je trouve que c'est une bonne idée, cette idée de jarre et d'aller piocher à droite à gauche et d'aller découvrir des trucs un peu au hasard. Après, des fois, il faut les contextualiser quand même, parce que le kiff, vous avez juste le titre du truc où vous vous demandez un peu sur quoi vous êtes tombé. Mais voilà, je trouvais que c'était une bonne idée, donc je la poser là, et merci Shana de nous avoir découvert et de faire tout ça.
Mais surtout, il y a les kiffs qui sont relativement détaillés dans les descriptions des épisodes, non?
Ah oui, non, mais c'est ça, c'est le truc, c'est qu'on a les kiffs dans les trucs des épisodes, mais après, si la personne veut prendre en note pendant, avoir une écoute studieuse de Laisse-moi kiffer.
C'est impressionnant.
J'adore.
Mais qui sommes-nous pour juger, finalement? Je trouve ça très chouette.
C'est trop beau.
Je suis admiratif.
Et c'est trop beau, en plus, quand elle dit « chargé de kiffs à vie », j'aime
oui,
bien.
Oui, c'est trop mignon. Alors, j'ai plusieurs anecdotes de stars parce que j'en ai une qui est extrêmement courte et qui tient vraiment en deux phrases. C'est Épuisette qui nous dit « Coucou, j'ai une anecdote de stars. Il y a quelques années, ma grand-mère a croisé Pascal, le grand frère, au bingo. Voilà, voilà. » Et je trouvais ça court, mais extrêmement efficace finalement, Pascal le grand frère au bingo, bon, je pense qu'on a ça tient en trois mots, mais franchement ça vaut le détour. Et j'en profite du coup pour lire une autre qui m'a fait beaucoup rire, et je vais la lire dans le bon ordre. Oui, de Charlotte FCH, non pas SCH mais FCH. Salut l'équipe LMK, voici une anecdote de star, une anecdote un peu nulle avec une super star. Un soir de semaine, je vais au cinéma seul voir Les Passagers de la Nuit, qui est un film qui est sorti de Michael Hirst il n'y a pas très longtemps et qui prend place dans le 15e arrondissement, ou un 15e blablabla, détestation, etc. Je remplis mon bingo. Le rang est juste devant moi. Deux vieilles dames très botoxées gardent plusieurs places pour des gens qui n'arrivent pas, n'arrêtent pas de se retourner vers la porte. Les bandes annonces sont sur le point de se lancer et les personnes attendues par les botoxées arrive. Et là, c'est Catherine Deneuve et sa petite fille, Anna Biolay. Voilà, j'ai regardé un film avec Catherine Deneuve à portée de mon bras tendu. Je ne lui ai pas du tout parlé, bien sûr. Je l'ai regardé, hop, j'essaie de retrouver ma ligne, pardon, je passe d'une capture à l'autre. Voilà, je l'ai regardé fumer sa cigarette à la sortie en faisant semblant de téléphoner pour me donner une contenance. Voilà, des bisous Charlotte.
C'est... Attends, mais je réalise à travers ce message que Benjamin Biolay et Catherine Deneuve sont dans la même famille en fait.
Bah, et je pense qu'ils ont des fêtes de famille que vous et moi n'avons pas.
Ouais, les fêtes de famille du cinéma français où tout le monde couche avec tout le monde.
Ouais, c'est un peu ça.
Du coup, c'est Chiara Mastroianni avec Benjamin Biolay, j'imagine.
Ouais, je pense que c'est ça le bail.
Mazette.
Moi, j'avais oublié cette histoire aussi.
J'imagine Noël chez les Deneuve.
Non, mais c'est un délire. Genre, ça donnait une drop des réalisateurs de ouf en mode j'étais avec. Enfin, bref. Peu importe. Mais toujours est-il que, bah voilà, Catherine Deneuve, vous le saurez, va encore au cinéma, fume encore des cigarettes. Catherine, il va falloir arrêter de fumer des cigarettes.
Non, mais dites-vous, mon fond d'écran pendant au moins un an, ça a été Catherine Deneuve avec un domac et un Birkin. Dans la rue, en train de marcher. Genre vraiment, elle est allée chercher un domac et elle rentrait chez
elle. Elle a tout compris, avec le Birkin. Elle a tout compris.
Le fameux, ouais. On attend encore vos PayPal. Toujours est-il que Catherine Deneuve, j'ai pas mal de gens que je connais qui l'ont croisée, donc faut croire qu'elle déambule régulièrement dans Paris.
Il faut croire qu'elle vit ici.
Non, mais il y a pas mal de stars que tu croises pas parce que, genre, je pense qu'elle se balade pas trop, qu'elle sort pas trop, ou je sais pas, ou à couvert. Il y a aussi des stars qui portent des perruques, vous saurez. J'ai déjà croisé des stars à perruques en vélo, ou à vélo avec des perruques, je sais pas comment tourner ça. Vous avez compris l'idée, peut-être Francis Lalanne avec une perruque blonde, mais vous ne le reconnaîtrez jamais, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Je posais ça là, c'est le moment idéal pour enchaîner sur un message boubou de Chloé, un message qui date d'il n'y a pas tant que ça pour le rythme d'attente. Enfin, j'ai l'impression d'être un espèce de podologue, mais ce message date du mois d'avril. Mais tu sais, pour avoir des rendez-vous chez les spécialistes, c'est un enfer.
Ouais, mais je crois que les podologues, il y en a plein, non?
Allez, message
boubou.
Il y en
a un en bas de chez moi, si tu veux.
Ah bah super, mais j'ai pas de problème de pied,
laissez-moi.
C'est
une dame, elle a l'air très gentille, mais okay. Je sais pas, ouais. Elle a du monde.
Bon.
Ouais.
Je vous lance donc ce message boubou qui n'a rien à voir avec les pieds.
C'est mon premier, je trouve.
Coucou les LM kiffeurs. Alors, je suis pas très souvent bourrée, mais là, je suis plutôt bien. J'ai 3 verres dans le nez et je suis à Malte. Donc franchement, meilleure vie. Du coup, je voulais faire une grosse dédicace à tous les LM kiffeurs, les LM crado selon la team. Et vraiment, si vous avez l'opportunité d'aller à Malte, go for it. C'est trop bien. Et genre dans l'hostel, le Marco Polo, un truc comme ça. C'est trop bien. Il y a plein d'étrangers. Tu rencontres trop de gens et tout. C'est trop bonne ambiance. Vraiment. C'est le message boubou, le message rêvé, le message bourré. Heureusement, ma guest house, elle est tout droit. Sinon, je sais pas comment je ferais. Mais du coup, merci à vous parce que vous illuminez mes journées, mes soirées quand ça va pas. Et ça, ça fait grave plaisir. Du coup, je vous fais des gros bisous à tous les auditeurs, les auditrices, les réalisateurs du podcast, ceux qui font partie
toute une équipe,
du podcast, etc. Du coup, je vous fais des gros bisous. Plein de cocktails maltais. Voilà, je vous embrasse. Bye.
C'est adorable. Merci Chloé. On est content d'illuminer tes journées et vous illuminer les nôtres.
Nous et toute l'équipe de réalisation de
exactement, nos 47 employés finalement du pôle podcast de Mademoiselle International Brand.
Cette entreprise du CAC 40.
Finalement.
Je suis trop contente, j'ai un point commun avec elle. Parce que moi aussi, à chaque fois que je suis bourrée, j'ai l'impression que chez moi, c'est toujours tout droit. Et souvent, c'est toujours tout droit, mais vraiment.
Bah, quand t'es un oiseau, techniquement, ça marche.
Ouais, bon, bah là.
Bof.
Des fois, faut tourner un peu, tu vois, mais c'est vrai que c'est toujours. C'est droit.
Merci, Marie.
Un témoignage bouleversant qui ne laissera pas l'auditoire indifférent. Non, c'est le moment.
Je suis bourrée, je ne sais plus tenir ma vessie.
Ça dépend ce que tu bois, non ?
Bah, dans la vie de tous les jours, je bois énormément et j'ai jamais envie de faire pipi.
Ah ouais ?
Mais dès que je bois de l'alcool, quand je bois de l'alcool, genre les 3-4 premiers verres, ça va.
Et après,
en fait, genre, j'ai l'impression que je peux plus me retenir et que je vais me pisser dessus et que je vais imploser et tout. Après, j'arrive quand même à arriver jusqu'à chez moi sans pisser dans la rue ou quoi, comme plein de mecs dégueulasses. Mais je me retiens bien et tout. Et à chaque fois, je me dis, mais en fait, je vais mourir. Ma vessie va exploser, je vais mourir. Et du coup, je me tape des délires limite paranoïaques où j'ai l'impression que je vais mourir dans mon urine. Enfin, bref. Voilà, c'était les détails, pas du tout glamour de ma vie.
Comme un auteur français, finalement.
Genre quoi, il y a quelqu'un qui est mort de sa vessie qui a explosé.
Non, mais je sais pas, ça m'inspire un peu Houellebecq, cette histoire. Genre, quelqu'un qui meurt dans son urine, je vois bien ce genre de.
Du personnage, ouais.
Pardon, excusez-moi, c'était pas très propre comme moment. Mais il y a toujours un point pipi avec moi ces derniers épisodes. Je suis désolé pour ça. Il va pouvoir foutre, ceci dit, dans l'épisode 210, donc bon, après tout.
Ouais, c'est une longue histoire.
C'est une très longue histoire. Je suis en train de le monter en ce moment, alors qu'on tourne l'épisode d'après. Vous comprenez pourquoi on est perdu aussi, un peu ? Bon, voilà. Toujours est-il que, c'est le moment de passer au jingle. Est-ce que c'est un jingle de Marine et on vous emmerde ? Jingle de Marine.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et toi, sous mon sein, les petits kiffs, sous mon sein, les petits kiffs, sous mon sein, les petits kiffs.
Waouh, merci Valentin.
Merci, et c'est l'occasion de passer, non pas au kiff, et non, parce que nous avons choisi de faire différemment en rapport au fait que nous avons été abandonnés lâchement par toute l'équipe de LMK et les 47 réalisateurs qui sont censés me seconder et que j'attends encore. Et nous avons décidé de faire un petit tour de mini-kiff avant, et puis après on fera des kiffs. Anthony avait oublié ce qui a été dit il y a vraiment 20 minutes. Et du coup, on va commencer par Marie. Marie, c'est quoi ton mini-kiff ?
Alors, mon mini-kiff, c'est un film que j'ai vu dernièrement sur Canal, qui date de 2020, qui s'appelle Haute Couture. Du coup, j'ai beaucoup pensé à Anthony. Et c'est un film qui a été réalisé par Sylvie Hayon. Je ne sais pas si vous connaissez, elle avait aussi fait Papa was a Rolling Stone, son premier film en 2014. Et en fait, pour être honnête, c'était un soir où j'avais besoin de me détendre d'esprit et j'ai cliqué, j'ai choisi ce film parce qu'il s'appelait Haute Couture et que y avait une belle robe en tulle.
C'est avec Nathalie Baye et Linda Koudry, c'est ça ?
Exactement, ouais. Okay. Et du coup, je me suis dit, je choisis ça. Et en fait, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Hein. Je m'attendais à voir du luxe, des paillettes, tout ce que tu veux. Et en fait, c'est un film qui suit les petites mains dans les ateliers de couture. Du coup, ça se passe dans l'atelier de couture de Dior. Mmh. Et en fait, on suit les petites couseuses de l'ombre. Et voilà, c'est un film écrit par des femmes, réalisé par une femme, avec que des femmes. J'ai trouvé ça pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a des critiques à faire. Hein. Ça manque peut-être un peu de gros plans ou de plans un peu plus qu'on se sent plus embarqué finalement dans l'émotion et dans l'histoire.
Monsieur Dior disait, une robe, ça se construit comme un immeuble. Touche, faut que tu sentes le tissu. Tu peux faire des belles choses.
Je fais ce que je veux. Ça vous fait rien de coudre des robes qui valent un bras, de venir bosser le samedi, tout ça pour être payé une misère ?
C'est pas ça qui compte. Ce que tu es en train d'apprendre, c'est un métier que tu pourras transmettre. C'est ça la vraie richesse.
ça m'a surpris et j'ai trouvé que c'était intéressant à voir et que ça prenait vraiment le contre-pied de l'image qu'on se fait vraiment de la haute couture. Et là, vraiment, on va voir les petites mains et j'ai trop aimé.
Ok, trop cool. Et du coup, t'as regardé ça en mode vraiment pour le thème et après, tu t'es genre laissé embarquer.
Je me suis laissé embarquer alors que c'était vraiment un film beaucoup plus sérieux, tu vois, un film société, de texte et tout. Il y avait peu de tenues, peu de défilés en fait. On était vraiment sur le métier de la couturière. Elles font une collection qui va sortir et voilà, on est vraiment que dans les ateliers, que dans le travail très ingrat et j'ai trouvé ça intéressant.
Et du coup, c'est quoi l'histoire ? Enfin, c'est quoi le fil narratif pour permettre de montrer tout ça ?
Alors du coup, c'est Nathalie Baye qui joue la chef d'atelier des couturières à la Maison Dior, qui en fait réalise sa dernière collection avant de prendre sa retraite. Et ça se passe à Paris. Et un jour, dans le métro, elle se fait voler son sac à main par Lina Koudry, du coup, César du meilleur espoir féminin pour Papier Chat en 2020. Et en fait, la jeune fille est prise de remords. Après, du coup, elle voit le cahier de croquis de dessin dans le sac à main et elle le ramène à la Maison Dior, à la couturière. Et là, la couturière, un peu pour la punir et en même temps aussi pour la stimuler, lui dit « tu veux pas essayer de coudre quelque chose ?» Et là, elle se rend compte que la jeune fille est super douée. Du coup, elle essaie un petit peu de la prendre sous son aile et de lui transmettre un métier... pour faire quelque chose de sa vie, parce que après on est peut-être un peu des fois dans les clichés sur la banlieue. J'ai lu plusieurs critiques qui n'étaient pas super à fond pour le film. On disait qu'on restait trop en surface, trop de stéréotypes. Un petit peu, mais je trouve que le métier des couturières est quand même bien mis en lumière.
Ouais, moi j'avais peur de ça, j'avais peur d'un film un peu sur le bord, un peu genre Le Ténor, Le Brio et toute cette espèce de vague de films français où il y a un espèce de gentil blanc qui vient sauver le méchant des banlieues qui en fait est un gentil arabe, donc tout va bien, tu vois. Enfin,
c'est un peu ça, c'est toujours le même fil blanc en fait.
C'est un peu ça.
Ouais, tu te demandes s'ils l'apprennent à l'école, forcément.
Est-ce qu'on est là-dedans encore dans
On est là-dedans. Raph. Pas trop, un petit peu. Après, moi, je trouve que c'est un peu nuancé avec de l'humour. Et puis, au final, la jeune fille, elle demande pas d'aide. Elle se sauve toute seule parce qu'elle en a envie. Hein, ça, on le comprend très bien. Elle renvoie chier plein de fois Nathalie Baye et ça, c'est bien fait. Mais du coup, non, on n'est pas totalement dans ça. Après, c'est pas parfait. Peut-être que ça reste encore un peu en surface, tu vois.
Mais je crois qu'il y a justement Kalindi qui a fait un épisode de Le Seul Avis qui compte là-dessus.
Sur le ténor.
Sur le White Saviorism, à travers le film Le Ténor.
Exact.
Et haute couture, oui, pourrait rentrer dans cette catégorie-là. Après, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas m'exprimer, mais...
Les exemples que je vous ai cités plus haut sont finalement la personnification filmique du complexe du sauveur blanc. Celui-là même qui consiste, pour une personne blanche, à se mettre en scène en train de sortir de la merde une personne racisée qui, en général, ne lui a rien demandé du tout, davantage pour se faire mousser que par altruisme.
Effectivement, c'est toujours le même trope de la grande dame blanche bourgeoise qui vient tenter de sauver...
Alors là, c'est pas une grande dame, parce qu'en fait, au final, on apprend au début, on croit tout le film, pendant la moitié d'une film, que c'est une bourgeoise parisienne et tout, elle a une maison. Et au final, non, elle habite dans une maison super loin en banlieue, elle a une heure de RER tous les matins, la maison est modeste, et en fait, on se rend compte que cette femme qu'au départ, on pense être une bourgeoise, c'est une chef d'atelier, et une chef d'atelier, ça gagne quand même super mal sa vie, par rapport à un créateur de mode.
Ouais, c'est du beaucoup coup, de paraître.
Ouais. C'est beaucoup de paraître, ouais.
Ok, c'est intéressant. Ça creuse du coup des questions de classe, de conditions de travail, tout ça, c'est chouette.
Ouais, ouais, exactement.
Ok. Écoute, je mettrai un petit extrait de la bande-annonce. Merci beaucoup. On passe au Rikikip d'Anthony, on essaie d'aller vite.
Ah, oui, bien sûr. mon Rikikip, il sera en lien avec celui de Marie, finalement, parce que mon Rikikip, c'est... Le JT Mode, une nouvelle émission qu'on a sur Twitch, sur la chaîne Twitch de Mademoiselle, que j'ai le plaisir de co-animer avec une des streameuses du crew Mademoiselle qui s'appelle Itsaru, qui est elle-même étudiante mode, qui fait des créations masculines, et qui co-anime avec moi ce JT Mode, où en fait c'est un journal Twitch de la mode quelque part, où en fait on parle un peu de l'actualité de l'industrie, avec deux invités. Souvent c'est une jeune créatrice et une autre personne qui pense la mode plutôt. Donc ça peut être une journaliste, une essayiste, une historienne de la mode ou quelqu'un d'autre du champ universitaire balbutiant des fashion studies en France, qui sont beaucoup plus reconnus à l'étranger comme au Royaume-Uni ou aux États-Unis notamment.
Et tous les quatre, toutes les quatre, on parle de l'industrie plutôt que de dire alors qu'est-ce qui est tendance aujourd'hui, ah bah c'est le rose, hihi, sans vouloir déprécier ça, hein, mais c'est pas du tout ce qu'on fait dans le JT Mat, c'est plutôt ouais en fait il s'est passé ça, est-ce que c'est grave, il y a tel collab, qu'est-ce que ça raconte de l'industrie, pourquoi est-ce qu'il y a autant de géants du luxe qui collaborent avec des marques de géants du sportswear par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a Jacquemus avec Nike, pourquoi il y a Adidas avec Gucci. Ça c'est l'épisode 1 où on avait reçu une créatrice qui s'appelle Ossane Nélien et la journaliste Alice Pfeiffer qui a écrit deux essais hyper intéressants, l'un sur le goût du moche, l'esthétique du moche, qu'est-ce que ça raconte, et la classe sociale qui dicte ce qui est de bon goût et de mauvais goût. Elle a aussi écrit un autre livre sur la parisienne, à quel point c'est un mythe relativement classiste, sexiste et raciste et très hétéro-centré. Là le prochain épisode qu'on va tourner, en fait je pense qu'il viendra de sortir quand vous écouterez cet épisode de LMK. Je vous tease pas trop, mais de toute façon tout ça ce sera disponible en replay sur la chaîne Twitch de Mademoiselle et la chaîne de YouTube de Mademoiselle, et peut-être même un podcast, qui sait, si on arrive à rendre ça agréable à écouter et compréhensible.
Moi je suis totalement partant parce que je trouve le thème super intéressant, et déjà donc comme tu disais il y a des replays, donc on va vous envoyer tous les liens évidemment comme d'hab dans la description.
C'est ça, le prochain épisode c'est le 13 juillet, et celui d'après ce sera le mardi 9 août a priori, donc voilà, restez connectés.
Trop bien.
Et
trop
toi
bien.
Mathis, c'est quoi ton riki-kiff?
Et moi mon riki-kiff, on en a parlé tout à l'heure dans Je dis tout, c'est une autre émission de Mademoiselle sur Twitch.
Comment s'autoréférence?
Et oui, non mais en fait voilà, je comptais pas en parler dans Je dis tout, mais en fait il se trouve que pour la première fois j'y ai participé. Donc Je dis tout en gros c'est une émission sur Twitch qui fait un peu making of de la rédac de Mademoiselle, où en fait on va parler des articles qu'on fait, des podcasts dans mon cas, et de tout ce qu'il y a autour de ça, et de débattre de ces sujets là et tout, parce que en fait c'est pas parce qu'une personne de la rédac écrit sur un sujet que les autres n'ont pas d'avis ou n'ont pas des choses à apporter, donc c'est toujours intéressant d'en discuter. Et du coup tout à l'heure Anthony m'a posé des questions sur les différents modèles économiques qui pouvaient exister dans le podcast, et je lui ai évoqué une série de fiction que Binge Audio a lancée qui s'appelle le Sobcast. Et le Sobcast, j'ai pas écouté énormément d'épisodes parce qu'il y en a pas tellement disponible, il y en a que 6, je dis pas de bêtises, à l'heure où on enregistre ce podcast, et c'est un bonheur. En fait, c'est une série qui est payante et dont les 5 premiers épisodes sont gratuits. Et je trouve que c'est un pari un peu fou, parce que déjà de la fiction en podcast, il y en a pas tant que ça. C'est difficile à faire, c'est difficile à écrire. Et là, c'est très bien fait, la musique est excellente en plus. Et en fait, on suit la vie d'un voisinage. On est dans un immeuble où l'ancien propriétaire de tout l'immeuble et tout, qui est un peu une vieille figure tutélaire du truc, vient de mourir. Et il a décidé, en mourant, dans son testament, de faire des conditions un peu à la con pour faire chier la meuf de la librairie d'en bas qui avait un peu envie de mettre le grappin sur l'immeuble. Et en gros, à partir de ça, on essaie de comprendre un peu les relations des différentes personnes d'un appart à l'autre, telle personne qui a du désir pour l'autre, l'autre qui déteste machin, machin qui pense que machin, en fait, il discute avec machin, et en fait, on apprend des trucs. Enfin, c'est vraiment genre du commérage, sauf que c'est du commérage avec des épisodes de 5 à 6 minutes, on va dire, où ça va extrêmement vite. À chaque fois, je les sens pas passer, je suis vraiment... Attends, déjà. Et c'est super addictif.
Binge Audio présente le Sobcast Roger est mort.
Roger est mort.
Roger est mort.
Roger est mort.
Roger est mort. Eh oui, je suis mort. Pour moi, c'est fini. Pour eux, tout commence.
Et je trouve ça vraiment bien joué. Je crois que c'est que 4,99 par mois, ce qui est totalement correct. Et accessoirement, je trouve que c'est ce pari qui est intéressant de faire payer les gens pour du podcast, parce qu'en fait, tout simplement, c'est une industrie qui est extrêmement précaire et sur laquelle c'est difficile d'avoir de l'argent, même avec la publicité, même avec les épisodes sponsorisés. Et je trouve ça intéressant que des contenus éditoriaux ou des contenus, dans ce cas-là, artistiques, puissent tout simplement, en fait, qu'on puisse montrer qu'ils ont une valeur, en fait, qu'ils ont une valeur pas moins qu'un livre, pas moins qu'une musique ou quoi. Et là, c'est vraiment une création collective avec une musique originale, avec une personne qui a vraiment écrit et pensé les textes, etc. Une réalisation, je crois que c'est Quentin Bresson qui réalise, mais de toute façon, Quentin, on lui doit plein d'excellentes réalisations pour Binge Audio, notamment, si vous avez déjà écouté le podcast On est chez nous, c'est lui qui faisait ça.
J'adore.
Et, voilà, ouais. Et il travaille, enfin, il est vraiment excellent dans son travail. Et voilà, du coup, je voulais vous parler du Sobcast que je vous invite à découvrir. Vous avez les 5 premiers épisodes en accès gratuit sur toutes les applis d'écoute.
Ah, trop bien.
Et si ça vous tente, en fait, ouais. Libre à vous de continuer ou pas. Et je crois que c'est à partir du 11 juillet qu'ils vont balancer un épisode, genre tous les jours. Enfin, ça va aller beaucoup plus vite, quoi.
Et ça s'écrit comment, Sobcast
Soap, comme un soap opéra, tu vois. Donc, S-O-A-P et cast comme le cast de podcast, donc C-A-S-T.
En un seul mot.
En un seul mot, okay. Absolument. Voilà. Et bah, du coup, c'est peut-être le moment de passer finalement au kiff. Du coup, je suis très perturbé de faire plusieurs tours, j'ai le tournis.
Ah, rien que ça.
Vous savez que j'avais payé une fois pour un podcast audio.
C'était lequel ?
C'était un podcast, non, je donnerai pas son nom parce que c'était une grosse merde, c'était un podcast érotique. Et c'était gênant.
Oh, ok, d'accord. Wow.
Ouais, genre avec des petits bruits comme ça. Mais vraiment pas du tout excitant, tu vois. Et le mec qui faisait des petits râles, là, je passe mes lèvres sur ton cou.
T'as écouté là, combien d'épisodes ?
C'est censé m'exciter, tu vois. Non, non, c'était vraiment quand, au tout début où ils avaient sorti des podcasts un peu érotiques et je m'étais dit, bon, je vais aller voir, tu vois, c'est un moyen. Et non.
Bah, c'est un
lieu où ton chat a apprécié.
Il a fui. Peut-être que c'est la solution.
Ça veut tout dire. Ouais. Mais il y a un podcast érotique que j'écoutais parfois. Faut que je regarde s'il existe encore et s'il sort encore des épisodes. Mais c'était Vox et ils ont un pendant masculin. Enfin, un pendant pour personne à pénis. Mais en fait, en vrai, c'est vraiment masculin.
Ouais.
Qui s'appelle Cox. Et bon, les trois quarts des histoires sont très cis-hétéro. Mais il y en a quelques-unes où c'est genre des histoires gays et tout. Mais bref. Mais en fait, je réalise que je préfère écouter les histoires sonores où c'est des meufs qui racontent que les histoires sonores où c'est des mecs qui racontent, quand bien même ce seraient des mecs qui racontent une histoire gay.
Ah ouais.
Et je me suis dit, waouh, j'ai vraiment un esprit bizarre. Et mais bref, je trouve ça hyper intéressant de confronter mon érotisme, mon imaginaire érotique à celui d'autres personnes. Et celui de l'audio, en fait, permet justement de l'appréhender différemment, pas de manière hyper sexualisée, et au contraire de laisser de la place justement à...
À l'imagination, à ouais. Tout, ouais.
À l'imaginaire érotique et à le faire travailler cette imagination-là, et ben, comment est-ce qu'elle se frotte, sans mauvais jeu de mots, à l'imaginaire érotique de quelqu'un d'autre ?
Avec mauvais jeu de mots, en vérité.
Non, c'est un très bon jeu de mots, je pense. Ça me fait penser à Roland Barthes qui compare le plaisir de la lecture à un texte, bref, qu'importe.
Oui, bah oui, de toute façon,
c'est, il frotte,
laisse,
le
non,
texte.
Mais laisse-moi kiffer, de toute façon, c'est le podcast, on cite Roland Barthes, donc je pense que tout le monde sera de toute façon capable de compléter cette citation sans que tu la termines. Vous pourrez terminer cette citation à la maison. Marie, c'est quoi ton kiff ?
Alors, mon kiff, ça sera encore un film, hein, parce que ces derniers temps, j'ai un peu été chamboulée émotionnellement, du coup, j'ai eu besoin de me retrouver et de regarder des films.
Et c'est ok.
Et c'est ok, j'ai le droit.
Il faut retourner au cinéma. Maya a écrit un article sur le fait que les salles peinaient à remplir depuis la crise du Covid, et c'est dommage parce qu'il y a quand même pas mal de belles choses qui s'y passent, donc c'est chouette.
Exactement.
Que tu nous en parles.
Et alors, ça part d'une séance de projection presse que j'ai faite pour Mademoiselle.
Trop bien.
Du coup, je suis allée voir le nouveau Thor Love and Thunder. Bref, et du coup je vais faire une critique qui sortira le 13 juillet prochain, du coup retenez bien, le 13 juillet il y a JT Mode et après il y a la critique de Thor.
Bah écoute, ça sera sorti au moment où, enfin, parce que l'épisode il sort ouais, et bah il sort au jeudi ouais. De la semaine prochaine, donc ça sera bon.
Du coup c'est déjà en ligne, allez-y
sur mademoiselle.com.
Et en fait je voudrais pas, bon ça va être un papier un peu personnel parce que bon il m'est arrivé plein de trucs au niveau de cette projection, mais voilà, ce film il m'a un peu déçue parce que on retrouve vraiment beaucoup de sexisme. Il y a un petit spoil, la Nathalie Portman qui est encore là et qui cette fois-ci va devenir une super héroïne. Et en fait, ça m'a beaucoup dérangée qu'elle devienne super héroïne parce que elle a une image. Au final, on la transforme, on lui donne ses super pouvoirs pour juste mettre en valeur Thor et les hommes dans le film. Et du coup, ça me dérangeait qu'elle soit là juste pour valoriser les postures masculines. Et pareil, pour l'anecdote, j'ai assisté à une conférence de presse avec tous les acteurs du film et tout, organisée par Disney, par Zoom. C'était en direct de LA à 2h du matin, c'était génial.
Tu pèses dans le game. Attends, à 2h du matin ?
Ouais, 2h du matin. J'étais dans mon lit, comme l'horreur. Ça, là, avec le chat à côté. Et il y avait Nathalie Portman sur mon écran. Et en fait, ils ont mis au moins 20 minutes avant de donner la parole à Nathalie Portman. Et parce qu'ils ont fait parler tous les mecs avant et que, je sais pas, elle était là pour faire de la figure et ça m'a vraiment agacée. En plus, je regardais la conférence de presse pour elle.
Mais c'est ton kiff.
Alors non, ça, c'est pas mon kiff. Du coup, après ça, je me suis dit, ouais, il faut que je cherche un film où on a vraiment une super héroïne badass qui en envoie et tout. Bon, moi, j'aime beaucoup Margot Robbie.
Oui.
Voilà. Mais tu vois, je cherchais un peu dans l'univers Marvel et je suis tombée sur une étude de juillet 2019 réalisée par Women's Media Center. Et en fait, 97% des films de de super-héros qui ont été produits ces 10 dernières années ont été dirigés déjà par des hommes. Les hommes y tiennent les rôles principaux. En effet, il n'y a que 14% de femmes qui ont un rôle principal solo dans ce genre de film. Et derrière la caméra, c'est pire, hein, parce que les films sont dirigés principalement par des hommes à 88%. Enfin, c'est énorme, quoi. Wow. Et le premier film qui a été dirigé par une femme, réalisé par une femme sur une super-héroïne, c'est Wonder Woman, et c'est en 2017 par Patty Jenkins. Du coup, c'était il y a pas si longtemps, quoi.
Ouais.
C'était il n'y a pas si longtemps. Et après, bon, bref, ça, c'est la petite anecdote qui m'a un peu énervée. Et du coup, le soir, je vais sur Netflix et tout. Je cherche des films de super-héros avec des femmes. J'en trouve pas, alors qu'il y en a plein avec des hommes, que ce soit des films d'action, dramatique ou comédie. Et au final, je tombe sur un film qui était un peu oublié dans les panels de films proposés, qui s'appelle Thunder Force. Et du coup, c'est un film américain réalisé par Ben Falcon, en 2021, du coup l'année dernière. C'est le réel par exemple de Garfield 2 ou encore Meilleur Ennemi avec Anne Hathaway. Je sais pas si vous avez vu, mais moi j'aime bien les comédies romantiques américaines, ça me détend.
Surtout avec Anne Hathaway.
Ouais, j'adore. Et il avait encore fait Les Flingueuses dernièrement. Bref, le synopsis, c'est après l'intervention d'une formule donnant des super-pouvoirs aux gens ordinaires, deux amies d'enfance deviennent des super-héroïnes improbables et s'allient pour combattre le crime. Bon, c'est, il faut voir ce film comme un film vraiment de l'absurde, une comédie pour rire. Et moi, j'ai trouvé ça drôle, hein, si on se prend pas la tête. J'ai trouvé le casting cool, parce que du coup, bah, on a deux femmes qui sont les deux personnages principaux. Melissa McCarthy, du coup, qui a déjà joué dans Arnaque à la carte ou Les Flingueuses. Et Octavia Spencer, qui, elle, jouait dans La couleur des sentiments.
Ouais. Elle a joué dans plein de trucs, Octavia Spencer.
Ou La figure de l'ombre, tu sais, le film sur la NASA, la scientifique noire.
Je me demande si j'ai pas dans The Shape of Water aussi.
Exactement.
Je crois.
Et du coup, bah, j'ai trouvé ça super cool parce que déjà, c'est pas deux femmes que tu t'attends à voir en super-héros parce que c'est des femmes rondes, belles, fières de l'être, tu vois. T'as une femme noire, une femme blanche, du coup, on est dans la parité. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et en fait, c'est un film qui fait un peu voler tous les tabous en éclats, un peu par le rire, tu vois. On parle beaucoup de sexe, de règles, de sexisme. Voilà, enfin, il survole un peu tout. Alors oui, j'ai lu des critiques, mais toutes écrites par des hommes qui sont en ligne actuellement, qui disaient qu'on était avec des super-héroïnes de merde, que le film ne volait pas haut. Certes, le film ne vole pas haut, mais il n'a pas la prétention de décrocher un Oscar. Tu vois, c'est un film pour rire, une comédie pour passer un bon moment. Et alors ouais, peut-être que le film se cherche un peu, peut-être qu'il assume pas le côté parodie des super-héros. Moi, je trouve que quand même, il le cherche, et je pense que c'est un parti pris que les costumes soient ridicules, que les méchants soient ridicules aussi. Enfin, pour moi, c'est... Ouais, on est dans... Enfin, moi, c'était assez juste. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez fin. Et ça, c'est sûr que c'est pas un film de vrais super-héros à la Marvel, badass, pas du tout. Non, on est dans le rire. Alors peut-être qu'il n'y a pas assez de moyens, peut-être qu'aussi c'est un réel, j'ai vu qu'il fait beaucoup ses films avec toujours les mêmes équipes et tout, qui a un univers très libéré, qui aime beaucoup aborder les grandes causes des femmes, notamment dans Les Flingueuses et tout, il n'avait pas eu peur, pareil, à aborder plein de thèmes un peu sensibles dans notre société. Et du coup, peut-être qu'il n'est pas assez suivi, mais moi, je pense que c'est un film, genre, entre guillemets, un film de merde, bien, à regarder pour se changer les esprits, quoi.
Surtout qu'il y a 50 000 films de super-héros qui sont très médiocres,
exactement,
voire nazes, merdiques, qui sortent et on dit jamais rien. Et...
On dit rien.
Là, c'est deux femmes, et du coup, c'est là genre...
Ah, deux femmes, tu vois, tout est contrôlé par les femmes, c'est elles qui ont réalisé la super potion pour être super-héros, enfin, il y a vraiment une ascension de la femme, en même temps, bah, elle rigole d'elle-même, il y a beaucoup, ouais, j'ai trouvé d'autodérision. Et ça manque dans les films de super-héros
masculins. Ils se prennent très au sérieux, ouais. C'est quand même vachement chiant.
Et du coup, ça s'effraie, tu vois, et après, quand tu lis des critiques, ils disent non, genre, elles n'assument pas la super-parodie et tout, non.
Tu peux rappeler le titre, s'il te plaît ?
Alors, mon anglais est dur. C'est Thunder. Non, T-H-U-N-D-E-R et force comme la force.
Thunder
et en
Force.
Fait, ça veut dire.
Force du tonnerre ?
Ouais, exactement. Parce qu'il y en a une, elle a plus un super pouvoir du tonnerre, et l'autre plus de la force.
Oh.
Et elles sont complémentaires.
Ah.
Et c'est des best friends.
Ce serait quoi votre super pouvoir à vous ?
Ah, c'est le monde veut savoir à nouveau ?
Oui.
Waouh, on fait tout en double aujourd'hui.
Oui.
Attends, le super pouvoir que je voudrais avoir ou le super pouvoir que je suis le plus proche d'avoir?
Ah, que tu voudrais avoir pour cette fois.
T'es proche d'avoir Marie, un super pouvoir. Ouais.
Non, mais je suis proche d'avoir le pouvoir d'ubiquité, tu vois. C'est genre, j'ai l'impression d'avoir réussi à faire plein de trucs en même temps.
Ubiquité, je croyais que ça avait un rapport avec l'alcool, aussi. Mais il y a cuite dedans, c'est pour ça.
Non, ubiquité. Et c'est le truc dont, ouais, peut-être que je suis proche de ça, tu vois. Ça me dérange jamais de me déplacer loin, vite, et de faire plein de trucs en même temps. Genre, je suis une caricature de slasher, tu vois. Mais de personnes qui multiplient les activités, pardon. Et sinon, le super pouvoir que j'aimerais bien avoir, je pense que c'est pouvoir séparer les différentes parties de mon corps, genre laisser mon cerveau à la fac, laisser mes poings et mes pieds en cours de boxe, laisser mon index et mon pouce en train d'écrire sur un cahier, tu vois, j'en sais rien, et pouvoir faire pipi en permanence.
Moi aussi, je
veux. Je supporte pas à me retenir de faire pipi. Ou alors, l'ubiquité, justement, la téléportation, quoi. C'est quitte à, en fait, oui, le pouvoir que je suis le plus proche d'avoir et celui que j'aimerais avoir, finalement, se rejoignent.
Bon, ça va, c'est plutôt cohérent.
Ouais. Et toi, Marie?
Moi, ça serait contrôler le temps. Genre, j'aimerais trop parce que je trouve que les journées sont trop courtes, les nuits aussi. Et je sais pas, j'aimerais pouvoir faire beaucoup plus de trucs. Et puis même revenir en arrière. Enfin, ouais, avoir le contrôle du temps. J'ai peur du temps aussi, j'ai peur de la mort. Je pense que ça résulte de ça.
Mais et j'aurais trop peur de ça, en fait. Enfin,
ouais,
en fait,
que ça bloque l'un truc dans la matrice, là.
Que ça me rende triste encore plus. Enfin, tu vois, c'est, en fait, très vite, t'as envie d'être immortel, du coup.
Ouais.
Mais est-ce que tes proches
peut-être
aussi deviennent immortels?
Ouais,
mais
oui,
si tu contrôles le temps, est-ce que tu voudrais pas vivre pour toujours?
Bah, si.
C'est ça.
Avoir 10 000 métiers, 10 000 trucs, ouais.
Moi, ça me met un peu en crise existentielle, parce que si t'as le contrôle du temps, tu peux choisir de ne pas choisir, vouloir tout faire et vivre éternellement. Et voilà, ça me met vraiment en PLS existentiel.
Je pense que j'aurais dit la même chose, j'aurais dit quelque chose sur le temps, mais moi pour le coup j'ai pas du tout peur de la mort. En revanche, je suis vraiment effrayé par le fait de vieillir, le fait de perdre des facultés, que ce soit motrices ou genre intellectuelles ou quoi. Enfin, j'ai vraiment peur de ce côté un peu dégénérescence, ou même ce côté tout simplement... de perdre même perdre des cheveux, un truc tout con, mais du coup perdre dans mon imaginaire de la désirabilité. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent, je trouve, dans la vieillesse, qui me terrifient beaucoup plus que la mort. Ou la mort, je suis un peu je suis plus là, tant pis. Mais du coup, ouais, j'aimais bien cette idée de pouvoir mettre le temps en pause et faire des trucs pendant ça. Mais comme tu l'as dit, je vais trouver autre chose et mais je le cale quand même et je l'explicite quand même, comme ça voilà, vous en faites ce que vous voulez, je vous donne ça, c'est pour vous à la maison. Mais le fait de lire les pensées des gens, ça j'avoue j'aimerais bien, mais alors sur commande. Enfin, c'est-à-dire que si j'ai les pensées des gens de manière non sollicitée, c'est comme une dick pic, j'en veux pas. En revanche, si voilà, j'ai la possibilité de savoir ce que Jean-Michel, qui me fait 30 000 courbettes, pense vraiment, je serais ravi de le savoir, parce qu'en fait je vais gagner beaucoup de temps dans ma vie à ne pas être empathique pour des gens qui ne le méritent pas, et parce que c'est fatigant, l'empathie. Voilà, je pense que ce serait ça mon pouvoir choisi, et l'occasion de glisser sur le kiff d'Anthony, car nous prenons du temps. Anthony, c'est quoi ton kiff?
Alors, mon kiff, c'est un podcast qui s'appelle Les mots bleus. C'est un podcast qui est pas très très vieux. C'est un podcast dont le premier épisode remonte au 15 avril 2021, si je ne dis pas de bêtises.
Mm-hmm.
C'est un podcast qui a été cofondé par Michael Worms Erminger, qui est un chercheur. En fait, il est docteur en santé publique et recherche clinique, et il est chercheur dans le domaine des addictions. Et il a créé, il est président d'une asso qui s'appelle Place des Sciences, et c'est Place des Sciences qui produit ce podcast, du coup. C'est une asso, hein, je le répète. Et du coup, ce podcast, Les mots bleus, il s'attache à décrypter, expliquer avec bienveillance, érudition, mais accessibilité, les enjeux de santé mentale. C'est hyper accessible, du coup. C'est pas du tout trop trop dur, ni trop trop expert. Enfin, c'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde. Voilà, c'est plus simple dit comme ça. Et c'est un podcast que j'avais peur d'écouter, justement, parce que c'est des enjeux qui me travaillent, qui me questionnent, qui me concernent aussi. Et j'avais peur que ça me déprime, honnêtement. Et du coup, genre, ça faisait vraiment littéralement genre un an que je savais qu'il existait et que je l'écoutais pas. Et là, récemment, j'ai fini par y jeter mes deux oreilles. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que, justement, donc ce docteur et l'hôte du podcast, il interroge des gens qui peuvent être des témoins personnellement concernés par des enjeux de santé mentale. Soit en tant que personne porteur d'un trouble, soit en tant que personne aidant ou proche d'une autre personne troublée. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que je me rappelle par exemple du témoignage d'une femme qui est la fille d'une mère fortement bipolaire Voilà, et c'était hyper émouvant, hyper puissant. Elle racontait sa position des dantes et ce que ça lui avait fait de grandir avec cette mère-là et tout. Et en fait, ce que j'apprécie beaucoup dans ce podcast, c'est que c'est jamais sensationnaliste ou voyeuriste. Ce que font beaucoup de cinéma, beaucoup de films, pardon, beaucoup de séries, beaucoup de médias aussi, ils ont souvent une approche hyper sensationnaliste, misérabiliste. On a rarement, en tout cas, des récits différents qui seraient beaucoup plus de l'ordre, sans vouloir enjoliver les choses, hein, mais juste genre, bah en fait, voilà, c'est comme ça, moi je l'ai vécu comme ça, il y a eu ça qui était négatif, il y a eu ça aussi qui était beaucoup plus positif. C'est des récits qui sont vraiment très bien construits. Et en plus des témoignages de personnes personnellement concernées, il y a aussi des témoignages de personnes qui sont experts, expertes professionnellement, je veux dire. Donc ça peut être des psychologues et des psychiatres, et c'est vraiment hyper intéressant d'avoir leur point de vue dans cette approche qui se veut plutôt positive et constructive, et pas du tout misérabiliste et voyeuriste et sensationnaliste.
C'est trop cool.
Et en fait, du coup, en plus de cette personne, du coup, qui est l'hôte du podcast, qui s'appelle Michael Worms-Herminger, il y a aussi, du coup, son compagnon qui fait la direction artistique, qui s'appelle Alexis Rocher, et il y a aux illustrations Manon Combe. Et enfin, tout ça, c'est retranscrit pour les personnes qui préfèrent lire ou les personnes qui seraient malvoyantes, par quelqu'un qui s'appelle Hunt Margaria. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'ils ont vraiment pensé à allier un fond et une forme de manière hyper léchée, chiadée. Voilà, la réalisation est présente sans l'être trop. Et même la retranscription, il y a un vrai enjeu d'accessibilité, quoi. Et voilà, du coup, je vous conseille chaudement. À un moment, vous pouvez l'écouter. De toute façon, à chaque fois, il y a des trigger warnings pour expliquer de quoi va parler l'épisode. Et c'est est-ce que vous allez être apte ou pas à l'écouter. Il vous rappelle quel numéro appeler si jamais vous ne savez pas bien, en fait, à l'approche de cet épisode. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce podcast, du coup, bah, il parle de plein d'enjeux. Donc, les troubles des conduites alimentaires, il parle aussi de schizophrénie, de bipolarité. Il y a des épisodes à peu près sur tout. Il y en a un qui m'a vraiment scotché. J'en avais jamais entendu parler. Je vais essayer de vous le retrouver. C'était un podcast sur la mélancolie délirante et le syndrome de Cotard, qui est aussi appelé le syndrome de Cotard. Et ça, c'est un truc dont j'avais jamais entendu parler. Et cet épisode, justement, donc le syndrome de Cotard, c'est une psychiatre qui est elle-même atteinte de ça. Elle a une vision, une double casquette dans cet épisode. C'est vraiment, vraiment, vraiment passionnant. On apprend plein de choses, mais avec bienveillance. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dedans, cette psychiatre, elle parle aussi des électrochocs, qui se pratique encore en psychiatrie de manière beaucoup plus mesurée, précise et contrôlée qu'au début du XXe siècle. Hein, mais c'est hyper intéressant parce qu'elle dit à un moment une phrase qui est vraiment qui m'a scotché. Elle dit en fait, je remercie aujourd'hui les électrochocs, quoi, qui m'ont vraiment sauvé. Et voilà, donc c'est un épisode sur le syndrome de Cotard que je vous recommande particulièrement dans ce podcast qui s'appelle Les mots bleus.
Et voilà. Tu en parles plus en détail en plus sur Mademoiselle.
Oui, dans un article qui viendra de sortir quand vous écouterez cet épisode, où j'ai interviewé le créateur du podcast, qui est vraiment passionnant, qui est chercheur en santé mentale. Voilà.
Super, trop cool. Bah, merci beaucoup.
Et toi, Mathis, c'est quoi ton kiff ?
Moi, mon kiff, ça fait assez longtemps que j'en ai pas parlé, c'est un kiff musical. Je dis ça, non, en vérité, la dernière fois, j'ai parlé des Francofolies, j'ai parlé d'Ona Maria. Bon, voilà. Bon, peu importe. Toujours est-il qu'il y a quelques années, allez, on va dire 4 ans, peut-être 5 ans maintenant, j'ai le mari de ma cousine qui me fait « Mais attends, mais t'écoutes vachement d'électro, mais il faut absolument que tu découvres ce groupe allemand et tout. » Et en général, quand les gens me conseillent un truc en électro, ça me plaît pas, parce que bah j'ai certains trucs très précis que j'aime. La musique électronique, ça veut pas dire grand-chose, c'est pas un genre à part entière, c'est plutôt un moyen de produire de la musique. Et du coup, souvent, les gens ils me conseillent des trucs qui sont un peu à côté de la plaque par rapport à ce que j'écoute d'habitude. Et là, ça a matché tout de suite. Ce groupe-là, en fait, c'est un trio allemand qui est en fait composé d'un duo et d'un mec tout seul qui se sont unis pour un projet. Donc le duo, c'était Mod Selector et le mec en question, c'était Apparat. Apparat, vous connaissez certainement, enfin, si vous le connaissez, c'est peut-être parce que vous avez entendu Goodbye, qui est le générique d'entrée de Dark, la série Netflix. Et donc Apparat et Mod Selector ont fondé un groupe ensemble qui s'appelle Moderat, et ce qui est pas trop con. Et en fait, ils ont fait 4 albums comme ça, et bah mon kiff, c'est ce 4e album qui est un retour. En fait, ils se sont séparés plusieurs fois, parce que c'est un peu des drama queen, et à chaque fois, ils sont en mode « Oui, on doit se concentrer sur nos projets solo », et genre 2 ans après, ils reviennent en mode « En fait, non !» Et je trouve ça incroyable. Et à chaque fois, c'est pas forcément très surprenant, Ils ont fait quand même une petite évolution sur leur troisième album. Là, j'avoue que le quatrième fait un peu de la redite, mais en même temps, c'est plus de chansons de Moderate et l'album s'appelle littéralement More Data, ce qui est quand même assez drôle, surtout que Data, il y a un des A qui est un 4, ce qui fait que c'est l'anagramme de Moderate 4. Donc voilà, on est sur des gens un peu chiadés, enfin ils ont un public où tout le monde a l'air d'être en école d'archi, c'est un peu un enfer, mais sinon c'est très drôle à écouter et accessoirement c'est vraiment une musique électro que je trouve à la fois intelligente et en même temps très accessible, dans le sens où en fait ça déconstruit beaucoup les rythmiques etc, mais en même temps vous avez toujours une voix, donc la voix d'Apparat qui a les mélodies solo, donc ce qui fait qu'on a des chansons et pas seulement une espèce de transe de 10 minutes un peu difficile d'accès comme ça si on n'aime pas l'électro, et je trouve que du coup c'est un bon entre-deux qui est assez intéressant et qui est pourtant bien référencé, et enfin je veux dire il y a ça fait penser pour si vous écoutez de l'électro, ça fait penser rythmiquement à du Burial ou à du Fortet, ça fait penser à plein de gens, et en vérité comme ils sont eux-mêmes à la tête d'un label et tout, c'est pas étonnant qu'ils puissent derrière avoir d'autres références en tête. Et donc je les avais vus en live à Wheel of Green avant que le festival ne devienne l'apocalypse que peut-être vous avez vu sur les réseaux sociaux ou vécu.
Et oui.
Marie pleine de bouffe.
Je l'ai vécu et j'ai échappé à la crève, je sais pas par quel miracle, parce que j'ai quand même dû me retrouver en sous-vêtements devant le métro à presser mon t-shirt et mon short. C'était un peu humiliant comme séquence. Il y avait un petit vieux qui me jugeait d'ailleurs.
What?
Si jamais tu écoutes ce podcast, arrête de juger les gens qui sont tout nus et qui font ce qu'ils peuvent.
Pareil, moi, si le mec là, qui m'a mis un gros coup de pied dans l'eau là, et qui a pris ma... J'étais tartinée de boue, là, si t'écoutes ce podcast, t'es un gros bâtard.
Grave, voilà, donc c'était notre service après-vente de Wheel of Green. Toujours est-il que du coup, la veille de cette déconvenue, finalement, il y avait Moderate qui passait en live, et en fait, ils ont fait un truc que je trouve super intelligent pour un DJ set. Il y a quand même beaucoup de moyens de foirer un DJ set, hein, on va pas se mentir, je trouve que c'est quand même un truc où ça peut juste avoir l'air très foie, de mecs qui sont devant une espèce de table et ils sont debout, tu vois. Enfin, concrètement, c'est ça une DJ set, tu vois. Genre, il n'y a pas moyen que les mecs ils se lâchent et tout. Et en fait, là, ils ont rendu le truc super intelligent parce que, bon, déjà, ils jouent avec des projections derrière et comme ils ont un univers graphique qui est très, très assumé et qui est très... En fait, qui est très reconnaissable, bah, du coup, ils peuvent jouer avec ça, jouer avec des symboliques. Ils ont fait des putains d'effets de drama queen, de on met 5 plombes à venir sur scène, on fait des effets de lumière, en fait, on vient un peu à, on sait pas, est-ce qu'il arrive sur scène, est-ce qu'il arrive pas, et puis ils ont un chanteur, ça aide aussi. Et en fait, ce qu'ils faisaient, qui a rendu les gens fous, surtout les gens qui connaissaient déjà leurs chansons, évidemment, c'est qu'ils lâchaient des espèces de mini-teasing de la chanson avec laquelle ils allaient faire une transition en lâchant des gimmicks. Ils ont des gimmicks très forts dans leurs chansons. Ça peut être un son, ça peut être un truc du refrain, je sais pas, ça va être... C'est compliqué à décrire, mais en fait, ils jouent vraiment en lâchant parfois mais une demi-seconde d'un son et les gens reconnaissent tous. Et ils hurlent, tu vois. Et je trouvais ça super bien fait de continuer le morceau précédent. On y va jusqu'au bout, etc. On fait la transe et genre on balance un petit truc en mode ah, vous voyez ce qui vient après. Et il y a les gens qui se regardent en mode oh, 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 oh. Et ça monte. Et j'ai rarement vu une espèce de ferveur collective aussi forte devant de l'électro, qui est quand même un genre de musique où les gens dansent assez seuls, je trouve. Ce qui est pas un problème dans l'absolu, juste là je trouvais qu'il y avait un vrai moment à passer ensemble, ce que j'ai trouvé très chouette. Et Moderate, si vous connaissez, c'est sûrement le morceau A New Error, qui est un morceau en fait qui a été pas mal utilisé en synchro, donc dans des publicités, mais aussi par Xavier Dolan dans Lawrence Anyways. La scène avec les vêtements qui tombent, bah c'est du Moderate, ce que vous entendez.
Okay.
Et ils ont fait un truc assez intelligent, c'est ce truc des groupes qui ont un titre à succès et que je pense ça fait chier de jouer, enfin genre je pense à Radiohead typiquement qui déteste jouer Creep, tu vois. Bah je sais pas s'ils aiment jouer A New Error, mais en tout cas ils l'ont passé à la fin de leur set, vraiment en mode débarras, et du coup les gens étaient fous, ils étaient trop contents, ils sont partis des étoiles dans les yeux, et les mecs bah ont pu jouer tout leur nouvel album avant, ce qui est ce qui les intéresse a priori dans cette nouvelle tournée. Et ils vont faire une tournée des Zéniths là bientôt et j'ai trop hâte et je crois que je vais reprendre une place. Ça fait partie des gens où vraiment, je pense que je pourrais les voir vraiment plein de fois. Je m'en lasserai pas. J'ai pleuré 5 fois pendant le concert. Enfin, après, je pleure tout le temps, encore une fois. Mais c'était vraiment un moment très fort. En plus, c'est des musiques que j'ai beaucoup écoutées. C'est une musique qui peut être un peu deep. Donc, du coup, je l'ai écoutée parfois dans des états émotionnels assez intenses. Et du coup, voilà, c'était assez fou de les voir en live et avec la voix d'Apparat que je trouve parfaite. J'aimerais ta voix, s'il te plaît. Bah voilà, c'était un moment de concert unique dans ma vie. Et ce quatrième album, j'adore le réécouter. J'adore écouter tout ce qu'ils ont fait globalement. Je ne m'en lasse pas. Et c'est assez rare en musique parce que je me lasse très vite des choses. Voilà, n'hésitez pas à revenir sur... sur nos kiffs, tout ça, et parce que je serais ravi de parler de Moderate avec des gens qui écoutent. Voilà.
Mais ta description du fait que les gens réagissent au moment où ils reconnaissent un gimmick musical qui annonce le morceau suivant,
ouais.
Cette tension, ce travail du suspense, de mise en tension du public, ça me rappelle une notion pour décrire les musiques dites arabes en France, ce qu'on appelle le tarab en arabe. Je ne sais pas si je le prononce bien et je ne voudrais pas... mal exprimer la chose, mais en gros ça désigne justement ce travail de la transe du public où en fait beaucoup de chanteuses arabes vont travailler, en fait c'est des morceaux qui sont très très longs,
ouais.
Et elles vont faire exprès de retarder le moment où elles vont faire le truc que tout le monde attend et tout, et ça me fait aussi penser à une Whitney Houston par exemple qui fait exprès,
ouais.
And I... et elle attend et tout le monde est là. On est là au bord de ses lèvres en train de se dire mon dieu, elle va le dire, elle va le dire, elle va le dire. Et après, elle le dit, et là, t'as l'explosion d'extase. Ouais. Et ben, ça, c'est le tarab. Et c'est un truc que j'adore vivre en concert, alors même que je suis agoraphobe. Donc, quand tu le décris, j'avais des frissons en y pensant. Je vois très bien de quoi tu parles, Mathis.
Ouais, c'est des moments très forts en vrai de concert. Et je trouve ça, même si je sais que c'est répété, etc., je sais pas, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui est vrai et qui est. Et qui, encore une fois, je trouve rare dans les DJ sets. Enfin, typiquement, j'ai vu Justice au Solidays. J'avais trop hâte. J'ai trouvé ça, mais vraiment nul. Enfin, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'âme. Et bon, après, il faut dire qu'ils ont joué des morceaux qui n'étaient pas du tout les leurs, mais vraiment genre de A à Z, qui n'étaient même pas remixés. Genre, ils ont passé I'm So Excited. Les gens étaient contents. Je te demande, non, mais si je voulais écouter ça, j'irais en boîte. Tu vois, ça me fait chier que des mecs que potentiellement t'as payé ta place, tu vas aller voir et tout. Ça te fait chier qu'ils te jouent le son de quelqu'un d'autre de A à Z, tu vois.
Ça se fait pas trop en plus, entre DJ.
Ouais, c'est bizarre. Ouais.
Bah, ça se fait si t'es le DJ du mariage de Sophie et Martin, tu vois. Félicitations à eux, mais ça se fait bof sur un concert quand t'es une putain de star internationale, tu vois. Ça fait vraiment flemme.
Parce que dimanche dernier, j'ai regardé la vidéo de McFly et Carlito qui ont fait la première partie de David Guetta. Je sais pas si t'as vu. Ils ont mixé à Ibiza. Ah, ils sont trop forts, ils auront tout fait dans leur vie. Ils ont mixé à Ibiza en première partie de David Guetta et tout, un énorme truc, tu vois. Et à un moment, ils arrivent quand même, David Guetta veut vérifier ce qu'ils vont jouer avant la performance.
Ouais.
Du coup, ils font écouter leur set et ils avaient repris un morceau de David Guetta sans avoir rien changé.
Oh, putain.
Et là, David Guetta leur dit, bah non, ça dans le monde des DJ, ça se fait pas du tout. Genre, tu peux avoir plein de problèmes. Il dit, bon, là, c'est moi. Je vous dis rien, mais il dit, en même temps, ça me fait chier parce que moi, je voulais jouer le morceau pendant ma partie, tu vois.
Bah ouais.
Et du coup, apparemment, non, ça se fait pas.
Bah ouais, non, ça se fait pas tel quel, en fait. Enfin, tu fais du remix ou tu empruntes des petits bouts. Enfin, tu fais des références, comme fait très bien Kiddy Smile dans ses mix où tu reconnais un morceau en mode « Oh putain, il est en train de citer, en fait, du The Blessed Madonna », tu vois.
Bah,
mais c'est pas « On va jouer le morceau en entier et puis on va pisser, on revient dans une demi-heure », tu vois. Enfin, dans ce cas-là, je suis DJ, tu vois. Enfin,
ah, oui.
S'il y a DJ, c'est faire des playlists Spotify. Abonnez-vous à mes playlists, voilà. Et c'est le
bien, j'en fais aussi d'ailleurs sur Apple Music.
Oh,
trop bien. Illustré par des mimes, parce que j'adore ça. Ah. Elles ont des noms très 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 évocateurs. Et je m'appelle Anthony VNCT, comme sur tous les autres réseaux sociaux.
Et on vous donnera le lien des playlists de toute façon que vous retrouverez en description.
Il faudra essayer de deviner ce que signifient les acronymes de mes playlists.
Ah, c'est des acronymes. Waouh. Moi, j'avoue que c'est vraiment très clair.
Très explicite en vrai.
Ah bon, c'est déjà ça. Bah écoutez les petits amis, je crois qu'il est l'heure de se quitter.
Merci les LM Cœur.
Merci les LM Cœur de votre écoute, de votre fidélité, même si on nous abandonne.
Non mais qui passait, cet épisode était super bien, hyper enlevé.
Mais l'épisode était très
bien. Bien rythmé et tout.
Vous voyez Aïda, Mimi, on n'a pas besoin de vous en fait.
Non mais on sera ravis de vous retrouver la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.
On aide les LM Cœur à apprécier quand on est au complet.
C'est
en
vrai.
Étant...
En incomplet.
Oui, voilà, en étant imparfait, en comité réduit, dirons-nous.
C'est
concentré,
vrai.
Concentré de bonheur, comme finalement de la mozzarella. Voilà, la boucle
un épisode mozzarellesque. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Et puis bah, si vous voulez vous abonner sur nos réseaux sociaux, vous avez tout dans les notes du podcast. Vous pouvez nous envoyer des commentaires, des messages boubou, des anecdotes de stars, des vidbolos, des LMK Rock, tout ça sur le compte @laisse-moi kiffer ou sur nos comptes respectifs Instagram. Abonnez-vous sur les différentes plateformes. Lâchez-nous 5 étoiles, si personne ne le fait plus de toute façon, sur
Apple Podcast.
Ou alors vous retrouvez tous nos articles sur
mademoiselle.com.
Voilà.
Mais ça n'existait pas.
Mais Marie, elle n'a pas été briefée. Et en vrai, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait. Mais de temps en temps, ça fait du bien de remettre des vieilles traditions. Parce que moi aussi, j'ai mon petit côté réac. D'ailleurs, touchez-vous bien le kikif.
Et si vous voulez m'envoyer des photos de salades avec de la mozzarella, de tomate mozza, ou de mozzarella fumée, ou mieux, de burrata.
Envoyez des mozzarella au bureau.
Une burrata de ses concours.
Ouais, coupée en deux.
Là, 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 là.
Mais là, récemment, j'étais dans un restaurant. Ouais. Et ils écrivaient genre demi-burrata, et c'était faux. C'était genre un quart de tiers de mozzarella burrata. Ouais. De burrata, pardon, arnaque.
C'est cher.
Et oui, Marie, le meilleur des pornos, c'est une burrata qu'on coupe en deux. Et la regarder dégouliner.
Et c'est sur ces mots de fin qu'on se quitte. Bisous à tous.
Salut. Désolé les véganes. Bonne soirée.
Désolé, bonne soirée les LM Caribou.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.